Valentin Ahuy Actualité, le journal des donateurs et amis de l'association Valentin Ahuy, revue trimestrielle, juin 2020, numéro 138. En couverture, un titre, Comprendre la lumière, et une photo, une jeune randonneuse forme avec ses doigts un cœur irradié par le soleil. Sommaire. Écoutez. Zoé, animatrice, atelier sculpture à la résidence Autonomie, et Annie France, organisatrice de séjours vacances adaptées. Se retrouver. L'association soutient régulièrement l'action des chiens guides. Comprendre. La lumière. Découvrir. L'atelier de la Villette, 30 ans d'insertion professionnelle. Agir ensemble. Bien immobilier, donner, mais pas la totalité. L'édito du président. Chers amis, chers lecteurs, une crise sanitaire sans précédent a touché et touche encore la France, mais aussi le monde entier. Le coronavirus Covid-19 s'est propagé depuis Wuhan, son épicentre, sur tous les continents, obligeant les responsables politiques à prendre des mesures inédites pour ralentir et limiter les impacts sur les vies humaines. Depuis mars 2020, nos équipes accompagnent et soutiennent les personnes les plus isolées ou les plus fragiles, par téléphone ou sur place quand il le faut, comme nous l'avons fait pour les résidents de notre résidence autonomie de Paris. Dans cet esprit, nous avons créé le 26 mars dernier, en première page de notre site internet, un espace dédié coronavirus Covid-19, en savoir plus, regroupant sur ce sujet toutes les informations utiles pour les déficients visuels et leurs proches. Ce site a d'ailleurs tout de suite connu un grand succès. Il a consacré notre association comme acteur de référence en matière d'accessibilité. Ce sujet est abordé dans la rubrique « Se retrouver ». Le professeur Jean-Louis Dufier, membre depuis 33 ans de notre conseil d'administration, nous donne les secrets de la lumière et de la vision. La lumière peut-elle être nocive pour les yeux ? Qu'en est-il de la toxicité des diodes électroluminescentes ? Les LED. Dans ce numéro, vous irez également à la rencontre des équipes de notre établissement parisien dit l'Atelier de la Villette. Cette entreprise adaptée permet à des personnes en situation de handicap de se former et de travailler de façon relativement autonome et de s'y épanouir. Enfin, je voudrais remercier très chaleureusement tous ceux qui, dans ces moments très difficiles, ont et ont eu des attitudes et des gestes qui vont de l'héroïsme au comportement exemplaire. Cela passe par le premier médecin mort du Covid-19, aux policiers et caissières des supermarchés, sans lesquels cette pandémie aurait été incomparablement plus dramatique. Ensemble, plus que jamais, restons solidaires et unissons nos forces pour rendre nos vies meilleures. Gabriel de Nomasie, président. Rubrique « Écoutez ». Zoé, animatrice atelier de sculpture résidence autonome, rue Petit à Paris. Ce fut une expérience de symbiose entre le désert et notre groupe. Nous étions tous soudés et solidaires dans la même aventure, heureux et enthousiastes de découvrir, avec notre handicap, ce contact de cette nature exceptionnelle, grâce à nos guides performants et attentifs à nous tous. Annie-France Glohagen, organisatrice de séjours adaptés. Je suis bénévole au sein de l'AVH au service Séjours Vacances. Ma mission, réaliser des voyages adaptés en France et à l'étranger pour répondre à toutes les envies. Je propose une idée de voyage, je mets tout en œuvre pour son élaboration en étant très attentive aux problèmes d'accessibilité et de sécurité. J'y participe et j'accompagne sur place les vacanciers inscrits avec l'aide d'autres bénévoles accompagnants indispensables à la réalisation de tous nos séjours. La découverte, la convivialité et l'échange sont le socle de nos voyages adaptés. Rubrique « Se retrouver ». L'association Valentin Ahuy soutient régulièrement l'action des chiens guides. Depuis plusieurs années, l'association Valentin Ahuy est en contact avec l'association Les Chiens Guides d'Aveugles afin d'organiser le financement de l'éducation de chiens guides et la remise du chien vers l'âge de 2 ans à la personne déficiente visuelle qui en a manifesté le souhait. Le chien guide est une des aides au déplacement pour les personnes déficientes visuelles. Il apporte plus d'autonomie, de sécurité, pour éviter les obstacles notamment, de plaisir, il est vecteur de lien social, et de confort au quotidien. En 2020, près de 10 chiens seront remis à des personnes déficientes visuelles pour les aider au quotidien à être autonomes dans leurs déplacements. Le 9 mars, c'est Oslo, labrador jaune de 23 mois, qui a débuté sa vie active de chien guide auprès de Pascal, habitant de Saint-Jean-de-Luz et aveugle. Oslo a été élevé et formé au centre Aliénor de Mérignac. Il prendra normalement sa retraite dans 8 ans. Photo d'illustration, la remise du chien Oslo à Pascal le 9 mars. Geneviève, correctrice et transcriptrice braille à l'association Valentin Huy, nous raconte sa relation unique et fusionnelle avec sa chienne guide, Gaïle, âgée de 8 ans et demi. Comment choisit-on son chien guide ? Il y a d'abord plusieurs essais avec des chiens pour trouver le partenaire idéal avec lequel on se sent le plus à l'aise. Mais ça n'est pas un choix unilatéral. Le chien aussi doit se sentir à l'aise avec la personne. Il doit avoir envie de lui faire plaisir, de l'aider. Dans le cas de ma première chienne, c'est elle qui m'a choisi en se jetant dans mes bras, ce qu'elle n'avait jamais fait avec personne auparavant. C'est vraiment un choix réciproque. Comment se passent les premiers jours avec un nouveau chien ? Chaque chien a sa personnalité et sa façon de réagir dans la rue. C'est à nous de décrypter, de comprendre sa façon d'anticiper les obstacles, de prendre les trottoirs ou les escaliers, en dehors du fait qu'il a une éducation à l'école pendant 6 à 8 mois pour apprendre son métier. En quoi votre chien est-il une aide précieuse au quotidien ? Gaïle me permet de venir au travail. Elle me guide dans le train et le métro pour trouver les escaliers, les escalators, les sorties. Lorsqu'il s'agit d'un trajet inconnu, c'est en revanche à moi de la guider en lui donnant des indications. Parce qu'il joue un rôle essentiel dans la vie des personnes déficientes visuelles, le 29 septembre, on pensera à la fête des chiens guides. Sensibiliser à la déficience visuelle. La MDH Village Sud et le comité Valentin Huy de l'Isère ont organisé en février un parcours sensoriel avec plusieurs ateliers pour sensibiliser au handicap. Cette action a suscité un vif intérêt, en particulier chez les jeunes. Bandeau noir sur les yeux, Inès et Carmen, deux adolescentes voyantes, ont ainsi pu vivre les conditions d'une personne aveugle dans certaines situations de la vie quotidienne. Avec les conseils de François Brun, président du comité, elles ont appris à se déplacer avec une canne blanche, à monter ou à descendre une marche, à reconnaître les obstacles. Elles ont pu aussi lire, sur le bout de leurs doigts, leur prénom imprimé en direct, en braille, et tapé, par un aveugle de naissance, sur une machine à écrire spéciale. Une expérience qui pourra se renouveler. Un musée dédié au braille, en projet. Le comité Valentin Huy de l'Allier dispose d'une riche collection de matériel braille et souhaite créer dans ses locaux, à Moulins, le premier musée dédié au braille en France. Cette initiative est portée avec enthousiasme par le président bénévole non-voyant du comité, Daniel Gerbois. En effet, il récupère et stocke depuis une quinzaine d'années les objets anciens et récents inventés spécialement pour les personnes aveugles. Première tablette pour écrire datant des origines du braille, cube à rythme pour compter, boussole, niveau de menuisier ou encore une poupée pour apprendre le braille. Le musée présentera également le matériel informatique d'aujourd'hui. http://moulins.avh.asso.fr. Un bénévole de l'association au championnat du monde d'aviron en salle. Bravo à Michael Aubert, bénévole au comité Valentin Huy du Calvados, situé à Caen, qui participait le 8 février 2020 au World Rowing Indoor Championships, dans la catégorie déficient visuel. Accompagné d'un souffleur qui lui donnait des informations pour réguler son effort, Michael Aubert a parcouru l'épreuve du 2000 mètres en 7 minutes et 30 secondes seulement. Michael pratique par ailleurs l'aviron en mer et rivière dans un club près de chez lui. Ses amis du club ont eu la bonne idée de l'encourager à participer à cette compétition. Les informations utiles liées à l'épidémie Covid-19 sur un espace dédié du site de l'association. Afin de pouvoir donner accès à des informations utiles que l'on retrouve sur les sites officiels du gouvernement notamment, mais qui ne sont pas accessibles aux personnes déficientes visuelles, l'association Valentin Huy a créé dès le 25 mars un espace dédié en page d'accueil de son site web. On y retrouve les documents officiels comme l'attestation de déplacement dérogatoire rendue accessible par nos équipes, les gestes barrières à respecter pour limiter la propagation du virus et protéger son entourage, des informations pratiques comme les livres audio de la médiathèque Valentin Huy disponibles en téléchargement sur EOL pour s'occuper pendant le confinement, ou encore un numéro vert pour se faire livrer ses courses. Agenda. France-Espagne, chemin en duo, du 20 au 27 septembre 2020. Paris, Porte de Versailles, Salon des seniors, du 23 au 26 septembre 2020. Rubrique « Comprendre », la lumière. La lumière nous permet de percevoir la vie, les humains et les objets. Elle est indispensable à la vision et tient donc une part importante dans notre bien-être. Lorsque le niveau lumineux est suffisant, l'être humain distingue des couleurs. La vision est une activité cognitive qui sollicite plusieurs aires cérébrales, comparant les sensations à celles enregistrées dans la mémoire, avec plusieurs effets en retour. La vision des couleurs change aussi en fonction de l'éclairage ambiant, de façon à attribuer aux objets une couleur, même si, du fait d'une variation de la lumière, la rétine reçoit des rayonnements différents. Mais la lumière peut-elle être nocive pour les yeux ? L'œil de l'être humain est un organe extraordinairement sophistiqué mais aussi très fragile. On le compare souvent grossièrement à un appareil photographique. C'est une sphère de 24 mm de diamètre munie en avant d'un hublot appelé cornée transparente servant d'objectif. Elle est prolongée en arrière par le nerf optique. L'œil est muni d'une lentille convergente à puissance variable, le cristallin, qui assure le phénomène de l'accommodation, c'est-à-dire le passage automatique de la vision de près à la vision de loin, et inversement. Ceci est possible grâce à l'action d'un muscle circulaire, le muscle ciliaire, et à la souplesse de la capsule cristallinienne. Leur action conjuguée permet la modification de la forme de la lentille et donc sa puissance suivant le degré de contraction du muscle ciliaire circulaire. La partie colorée de l'œil, l'iris, est visible à travers le hublot cornéen. Il est percé en son centre d'un orifice au diamètre variable, la pupille, jouant le rôle de diaphragme pour moduler l'entrée des rayons lumineux. La pupille se contracte automatiquement en myosis, à la forte luminosité, et se dilate en mydriase, à l'obscurité. La cavité vitréenne, totalement transparente, occupe tout l'espace situé entre le cristallin en avant et la rétine en arrière. On peut le considérer comme la chambre noire de l'œil. Enfin, la rétine est l'équivalente de la plaque photographique impressionnée par la lumière. Cette rétine est tout à la fois un tissu récepteur, transducteur et conducteur. Elle contient deux types de cellules sensibles à la lumière, appelées photorécepteurs. Les cônes, surtout concentrés dans la partie centrale de la rétine, la macula, sont dévolus à la vision de jour, à l'acuité visuelle et à la vision des couleurs. Les bâtonnets, répartis sur toute la périphérie de la rétine, assure la vision de nuit et le champ visuel, c'est-à-dire la perception de tout ce qui nous entoure. Du déficit de l'une ou l'autre de ces cellules dépendra soit la perte de la vision centrale, comme dans la dégénérescence maculaire liée à l'âge, soit la perte de la vision périphérique, comme dans le glaucome chronique et la rétinopathie pigmentaire dans sa forme la plus fréquente de Rotkohn. Si les deux cellules sont atteintes, c'est la cécité. Les photorécepteurs rétiniens absorbent l'énergie lumineuse des photons qu'ils transforment en électrons grâce à cette subtile alchimie qu'on appelle la phototransduction. Les trains d'électrons sont des messages codés qui parcourent les voies optiques à l'intérieur du cerveau, depuis le nerf optique, dont les fibres ne sont qu'une émanation des cellules ganglionnaires rétiniennes, jusqu'au cortex occipital. À ce niveau, ces messages seront décodés, analysés et interprétés en fonction de la banque d'images constituée par les expériences visuelles depuis la naissance. Il est intéressant de noter que l'homme, comme tous les prédateurs, est pourvu de deux yeux frontaux qui lui confèrent une vision binoculaire, responsable de la perception du relief grâce à la fusion des deux images maculaires. Les proies dont les deux yeux sont latéraux n'ont pas de vision binoculaire, mais une vision panoramique qui leur permet ainsi d'échapper à leur prédateur. On parle souvent de la pollution des trois éléments, l'air, l'eau, la terre, mais rarement de la pollution par la lumière. Et il peut paraître paradoxal d'attirer ici l'attention sur son éventuelle nocivité à des lecteurs dont la vision s'est obscurcie et a fortiori à ceux dont Charles Baudelaire nous dit que « leurs yeux ont perdu la divine étincelle ». Cependant, contrairement à la lumière solaire naturelle, la composition, autrement dit le spectre, de la lumière artificielle délivrée par de nouvelles sources lumineuses et la débauche d'éclairage À contre-temps de l'alternance du jour et de la nuit, c'est-à-dire au rebours du rythme nyctéméral, peuvent l'une et l'autre entraîner des conséquences néfastes pour la vue. Contrairement aux autres causes de pollution, l'agression lumineuse par les nouvelles sources de lumière artificielle est moins souvent dénoncée. Et cependant, les yeux y sont constamment exposés, parfois même à notre insu. À tout le moins, une protection par des verres filtrant les rayonnements nocifs pour la rétine est à recommander, tout particulièrement chez les personnes souffrant d'une maladie rétinienne, mais aussi pour les enfants et après opération de la cataracte. Les sources lumineuses. La rétine humaine, après s'être parfaitement adaptée depuis la nuit des temps à la lumière naturelle du soleil, puis pendant des milliers d'années à la lumière dansante du feu et vacillante d'une bougie, et enfin accoutumée depuis 1878 à la géniale invention de l'ampoule à incandescence par Thomas Edison, est de nos jours exposée à une nouvelle source de lumière artificielle, les diodes électroluminescentes, LED. Ces diodes sont des dispositifs semi-conducteurs qui émettent une lumière monochromatique incohérente, ce ne sont pas des lasers, lorsqu'elles sont parcourues par un courant électrique. Selon le matériau semi-conducteur utilisé, elles peuvent émettre, dans les courtes longueurs d'onde, de l'ultraviolet, dont on se rappelle la toxicité pour l'œil et la peau, ou, dans les longues longueurs d'onde, de l'infrarouge, mais aussi dans le spectre visible, entre 400 et 700 nanomètres, qui nous concerne tout particulièrement. Alors que la lumière naturelle solaire délivre un spectre homogène de longueur d'onde, régulièrement réparti entre 400 et 700 nanomètres, les LED commercialisés émettent un pic de longueur d'onde à 450 nanomètres, proche du rayonnement ultraviolet dont elles partagent la nocivité pour la rétine. Cependant, un des atouts majeurs de la technologie LED réside dans son efficacité énergétique. Alors que l'ampoule à incandescence disperse en chaleur 90% de son énergie, une ampoule fluorescente 40%, une LED seulement 15%. Il en résulte que les LED sont 1000 fois plus lumineuses que les lampes à incandescence et elles ont, de plus, une vie moyenne de l'ordre de 50 000 heures. Leur présence ubiquitaire fait cependant naître des préoccupations. La plupart des LED commercialisés diffusent une lumière blanche en utilisant une LED bleue qui émet une bande entre 430 et 460 nanomètres, là où le risque phototoxique est maximum pour la rétine. Il ne s'agit pas d'un phototraumatisme comme l'on peut en créer par photocoagulation avec un laser à l'argon, mais de lésions photochimiques par libération de composés toxiques pour la cellule qu'on appelle les radicaux libres. La pollution lumineuse. La pollution lumineuse naît de cette débauche de lumière artificielle à laquelle les yeux sont exposés en permanence par les écrans de télévision, d'ordinateurs, de tablettes, de téléphones portables, par les enseignes lumineuses, l'éclairage urbain, les phares automobiles allumés de jour comme de nuit. Qui n'a pas été incommodé par ces nouveaux phares à LED en conduite de nuit ? Une inquiétude légitime à propos de ces nouvelles sources lumineuses réside dans le risque phototoxique sur la rétine, et plus particulièrement au niveau de son aire centrale la plus sensible, la macula, faite exclusivement de cônes. L'incidence de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, DMLA, affection multifactorielle et bilatérale, ne risquerait-elle pas d'augmenter après des années d'exposition à ces nouvelles sources lumineuses ? Une étude de 2003 rappelle que l'incidence de la DMLA est de 10% à 80 ans et 15% à 90 ans. Cependant, les photorécepteurs sont protégés de l'oxydation lumineuse par des pigments maculaires, lutéine et zéaxanthine. Certaines études, POLA, montrent un lien entre la quantité de ces pigments, variable suivant les individus, et le risque de DMLA. Si l'étude Cochrane, à partir de l'analyse d'études comparatives entre le devenir d'un œil opéré de cataracte avec un cristallin artificiel standard et l'œil contralatéral opéré de cataracte avec un cristallin artificiel bloquant la lumière bleue ne retrouve pas de différence significative pour le risque de DMLA, d'autres études et des observations cliniques arrivent à la conclusion inverse. C'est dire combien le sujet est sensible et controversé. Mais il n'en demeure pas moins que l'homme, comme toute la création, est régi selon un mode binaire. Il est un être à activité diurne et repos nocturne. la rétine et ses deux types de photorécepteurs, cône et bâtonnet, n'échappent pas à cette règle. Les pigments rétiniens, opsine et rhodopsine, contenus dans les disques des articles externes de ces deux photorécepteurs, sont consommés le jour et régénérés la nuit. Une exposition à une lumière fortement énergétique, comme les LED, est plus délétère la nuit que le jour. Or, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que la rétine est soumise à une longue et forte exposition nocturne. De plus, l'épithélium pigmenté rétinien de la personne âgée est très chargé en lipofuscine qui rendrait sa rétine particulièrement sensible à la lumière. Les protections. Le port de verres anti-rayons ultraviolets et anti-lumière bleue, filtrant la bande 430-460 nanomètres, est à recommander. Ces verres, tirant vers le jaune-orangé, couleur complémentaire du bleu, sont tout particulièrement utiles chez les personnes souffrant d'une maladie rétinienne, chez les enfants dont le cristallin parfaitement transparent ne filtre pas les rayons ultraviolets et, a fortiori, en cas de perte du cristallin d'origine après intervention de la cataracte. Qui plus est, il faut reconnaître que les enfants s'approprient très vite les nouvelles technologies de l'information. Elles constituent pour eux une source importante d'acquisition des connaissances. Mais l'utilisation trop précoce des écrans, moins de 2 ans d'âge, trop intense, plus de 2 heures par jour, et trop rapprochée, moins de 40 cm, facilite le développement de la myopie. La myopie évolutive résulte non seulement d'un déficit d'exposition à la lumière naturelle solaire, mais aussi de la sollicitation permanente de l'accommodation du fait d'une vision trop rapprochée de l'écran, ce qui est particulièrement flagrant dans l'usage immodéré des appareils de type smartphone. Qui plus est, ce petit écran regardé à une quinzaine de centimètres expose les yeux à un maximum de rayonnement. Regarder un court message est sans commune mesure avec la vision d'un jeu ou d'un film pendant une demi-heure dans une salle d'attente ou pendant 2 heures de voyage, en voiture, en train ou en avion. N'est-il pas paradoxal qu'un appareil destiné au sens de l'audition soit devenu d'un usage presque exclusivement visuel ? Article rédigé par le professeur Jean-Louis Dufier. Pour aller plus loin, si vous souhaitez recevoir notre dépliant « Que faut-il savoir sur les maladies oculaires ?», écrivez-nous à communication@avh.asso.fr. Nous vous enverrons un exemplaire. Rubrique « Découvrir ». L'atelier de la Villette, 30 ans d'insertion professionnelle. Cette année, l'atelier de la Villette fête ses 30 ans. Située dans le 19e arrondissement de Paris, cette entreprise adaptée, EA, créée par l'association Valentin Huy en 1990, permet à des personnes avec un handicap visuel ou autre de se former et de travailler de la manière la plus autonome et épanouie possible. Vous êtes-vous jamais demandé qui se cachait derrière l'emballage de ce joli coffret cadeau que l'on vous a offert à Noël dernier ? Ou bien derrière ces courriers du CSE ou de l'assurance que vous recevez régulièrement dans votre boîte aux lettres ? Ce compte-rendu de réunion, ou enfin cette réponse tant attendue à votre lettre de candidature d'embauche. Sans le savoir, vous avez peut-être déjà croisé la route de Marie-Laure, de Linda, d'Anthony, de Carole, ou d'un autre des 37 salariés handicapés qui travaillent à l'atelier de la Villette. Une entreprise à la fois sociale et solidaire. Située rue Petit, dans le 19e arrondissement de Paris, l'atelier de la Villette est l'un des 16 établissements de l'association Valentin Huy. Cette entreprise adaptée, économique et solidaire, travaille pour plus de 200 clients pros chaque année dans 3 domaines différents. La bureautique et le secrétariat, saisie et recherche de données, la reprographie et le routage, impression et mise sous pli, et enfin le bien-être au travail, massage à but non thérapeutique en entreprise. Une entreprise comme les autres. Ou presque. Ici, 80% des travailleurs ont des handicaps, visuels pour une majorité, mais aussi moteurs ou cognitifs. Cependant, c'est la compétence qui prime lors du recrutement, souligne Renaud Lemaire, directeur de l'atelier de la Villette. Dans une entreprise adaptée, la mission sociale est centrale. Mais cela reste une activité ordinaire. Il faut valoriser l'humain tout en proposant aux entreprises classiques des prestations de qualité. On recrute avant tout des professionnels avec des savoir-faire et des qualités comme n'importe quel employé. Pour les comptes rendus de réunions d'entreprise, par exemple, il nous faut des gens qui maîtrisent la bureautique, tapent vite et ne font pas de fautes de français, Par contre, le handicap n'est pas un frein chez nous. C'est une question de volonté et d'organisation. Par exemple, nous avons 3 personnes déficientes visuelles dans le service bureautique. Elles travaillent avec des plages braille et peuvent donc effectuer le travail comme n'importe qui. Elles ont même été formées l'année dernière aux nouvelles versions Word, Excel et PowerPoint. Un tremplin vers l'autonomie. Dans le grand atelier lumineux de reprographie, Anthony travaille ce jour-là à la préparation des courriers avec 3 autres collègues. Dans un silence de cathédrale, entrecoupé seulement du bruit régulier du papier qu'on manipule et qu'on froisse légèrement, le jeune homme insère les lettres, au préalable comptées et pliées, dans les 2000 enveloppes préposées. Pour effectuer ses tâches, malgré sa cécité, il faut de la concentration, de la minutie et une bonne dose de coopération. Rêvant d'abord de devenir soigneur équestre, ce jeune aveugle de 20 ans a jonglé pendant 2 ans entre chômage et CDD du fait de son handicap. Arrivé à l'atelier de la Villette en 2018 pour un stage qui s'est vite transformé en CDI, Anthony a pu découvrir un nouveau métier qui lui permet de continuer à faire du cheval le week-end et de faire partie d'un protocole de test à Strasbourg pour la rétine artificielle. Cerise sur le gâteau, le jeune homme vient même de s'acheter son premier appartement en région parisienne. Une belle réussite, aussi bien professionnelle que personnelle, dont l'entreprise se félicite et qu'elle essaie de favoriser au maximum chez tous ses salariés. Renaud Lemaire, le directeur, précise « Notre objectif à terme est de leur permettre d'être le plus autonome possible et pour certains, de s'orienter vers le monde du travail ordinaire. » Pour cela, l'entreprise adaptée facilite également les détachements dans les entreprises clientes. Actuellement, 12 salariés sont détachés quotidiennement en entreprise. Pour en savoir plus sur l'atelier de la Villette, https://www.atelierdelavillette.fr. Bonus info. Cette année encore, l'atelier de la Villette, entreprise solidaire et écologique, a reçu à nouveau le label Imprime Vert qui certifie les entreprises dans le domaine de l'imprimerie agissant pour réduire leur impact environnemental. Un nouvel espace bien-être. Dans un local situé au pied de l'entreprise adaptée, un nouvel espace bien-être s'est ouvert en décembre 2019. Ce cabinet, entièrement aménagé et équipé pour le massage, est mis à la disposition des praticiens bien-être déficients visuels diplômés du CFRP pour leur permettre de se lancer dans le métier. Un article signé Carole Bailly. Rubrique « Agir ensemble ». Donner, mais pas la totalité. Vous pouvez léguer un bien immobilier en pleine propriété ou n'en céder qu'une partie, la nue propriété. C'est ce que l'on appelle un démembrement de propriété. Dans le premier cas, vous transmettez définitivement l'intégralité de la propriété. Dans le second cas, vous organisez votre succession, mais vous gardez le contrôle, ce qui présente des avantages. Vous continuez à profiter du bien. Vous pouvez l'occuper, en percevoir les loyers, mais les frais d'entretien sont répartis entre l'usufruitier et le nu propriétaire. L'usufruitier assume l'entretien courant du bien. Le nu propriétaire est responsable des travaux importants qui ont trait à la structure et à la solidité générale de l'immeuble. Le nu propriétaire possède le bien, mais ne peut ni l'habiter, ni en percevoir les revenus, ni le vendre sans l'accord de l'usufruitier. À votre décès, l'usufruit s'éteint et le nu propriétaire devient propriétaire à part entière, sans droit à payer. Le démembrement de propriété peut porter sur tout type de biens immobiliers, résidence principale ou secondaire, immobilier locatif. La donation de la nue propriété d'un bien immobilier à l'association Valentin Ahuy est exonérée de droits de donation. Les dons et legs faits à notre association, reconnue d'utilité publique depuis 1891, sont exonérés de droits de donation et de succession en vertu du Code général des impôts. Vous souhaitez vous informer sur la donation avec réserve d'usufruit d'un bien immobilier ou sur les legs, donations en général, en faveur de l'association Valentin Ahuy? Dorothée Gravereau est à votre disposition pour évoquer votre projet en toute confidentialité au téléphone sur sa ligne directe au 01 44 49 29 60. 5 rue du Roc, 75 007, Paris. L'association Valentin Ahuy est membre fondateur du comité de la charte du don en confiance y agréé par cet organisme de contrôle des associations et des fondations faisant appel à la générosité du public. Question-réponse. J'aimerais connaître l'ensemble des services proposés par l'association. Pour découvrir les différents services proposés par l'association, médiathèque, boutique, pôle accessibilité, pôle social et juridique, imprimerie, vous trouverez toutes les informations sur notre site internet dans la rubrique « L'association » sur la page dédiée « Présentation ». Où puis-je trouver un comité Valentin Huy près de chez moi ? Près de 120 comités départementaux ou locaux sont au service des personnes aveugles ou malvoyantes. Vous trouverez la liste sur notre site internet www.avh.asso.fr. Quelles sont les différentes façons de soutenir les actions de l'association Valentin à Huy ? Il existe de nombreuses manières de soutenir l'association, en faisant un don ponctuel ou régulier afin de pérenniser nos actions, en vous engageant sur une mission de bénévolat, en entrant au service de l'association par un mécénat de compétences ou tout simplement en en parlant autour de vous. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet dans la rubrique « Agir avec nous ». Pourquoi choisir le don par prélèvement automatique ? Le soutien régulier est un moyen simple et efficace qui vous permet d'agir avec nous dans la durée. Un reçu fiscal cumulant le montant de vos prélèvements vous sera envoyé une fois par an. Comment devenir bénévole de l'association Valentin à Huy ? Notre association est présente partout en France, dans près de 120 implantations locales. Notre responsable du bénévolat, Patrick Voisin, peut vous proposer des missions ponctuelles ou régulières à réaliser dans notre siège parisien, dans un comité régional ou même de chez vous. Pour plus d'informations, écrivez-lui à bénévolat@avh.asso.fr ou contactez-le au 01 44 49 25 92. Contact pour les relations donateurs, Marie ou Sandra, au 01 44 49 27 05. relationsdonateurs@avh.asso.fr. Donateur au pluriel. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.avh.asso.fr. Votre engagement est notre force qui agira dans la durée. En choisissant le prélèvement automatique, vous accompagnez dans la durée les personnes aveugles ou malvoyantes sur le chemin de l'autonomie. Vous répartissez les dons sur l'année et gérez ainsi plus facilement votre budget. Vous recevez une fois par an votre reçu fiscal récapitulant l'ensemble de vos dons. Vous pouvez déduire 66% du montant de votre soutien, dans la limite de 20% de votre revenu imposable. Merci pour votre soutien. Le Valentin à Huy Actualité est une revue trimestrielle éditée par l'association Valentin à Huy, 5 rue du Roc, Paris 7e. Téléphone 01 44 49 27 27. vhactualité@avh.asso.fr. Téléchargeable et disponible en version audio sur www.avh.asso.fr.